Il y a un pays dont je vais taire le nom pour vous laisser le soin de découvrir duquel il s'agit, dont le président a fait récemment une déclaration qui a provoqué beaucoup de remue-ménage. Cet homme a dit « Quand il y a une grève, plus personne ne s'en rend compte ». Rien que de dire ça a provoqué déjà des réactions dans tous les sens. Et pourtant, il n'avait pas totalement tort parce que dans ce pays-là, faire la grève est devenu un tel mode de vie qu'on ne s'en rend plus compte quand il y en a une. On s'en rend compte, en fait, plus quand elle est finie. Parce qu'une fois qu'une grève est finie, les organismes impliqués sont encore en train de se disputer pour savoir si la grève a été un succès ou un échec. Et ils sont en train de se disputer pour savoir combien de personnes ont participé à la grève. Et les discussions et les conflits peuvent continuer longtemps après que la grève soit terminée. On estime dans ce pays-là qu'un jour de grève générale coûte l'équivalent de 1 milliard de dollars. Et par année, on estime qu'il y a d'environ 2 millions de jours de grève individuelle dans une seule année. C'est énorme. La grève coûte cher. La grève coûte très cher. Et je pense à cette situation du peuple d'Israël qui a fait la grève de la foi dans son expérience. Le peuple d'Israël avait déjà passé 2 ans dans le désert. Et au cours de ces 2 années, ils avaient vécu plusieurs expériences avec Dieu. Ils avaient vu Dieu agir à leur égard en les délivrant de l'Égypte au moment de la célébration de la première Pâque, qui correspondait aussi avec la 10e plaie qui tombait sur l'Égypte. Ils avaient vu Dieu ouvrir devant eux la mer Rouge pour qu'ils puissent y passer à pied sec. Ils avaient tous les jours devant leur porte de la manne à manger, dans un désert où il n'y avait rien. Ils avaient eu de l'eau qui sortait du rocher. Ils avaient aussi rencontré Dieu au pied du mont Sinaï, une rencontre qu'ils n'avaient jamais faite. Dieu leur avait donné des instructions pour construire le fameux sanctuaire du désert. Ils l'avaient construit. Toutes ces choses, ils les avaient vécues pendant ces 2 ans où ils avaient cheminé dans le désert, accompagnés par Dieu. Et maintenant, ils se trouvaient aux portes de la terre promise. À Kadès Barnéa, un événement particulier va changer le cours de leur histoire. Et au lieu de rentrer dans la terre promise, comme Dieu l'aurait souhaité à ce moment-là, ils vont en réalité continuer leur voyage pendant encore 38 ans dans le désert. Vous vous souvenez de cet événement, il nous est rapporté dans le livre des Nombres, au chapitre 14, où il nous est dit que, aux portes de la terre promise, les chefs du peuple ont pensé qu'il serait sage d'envoyer des espions pour aller explorer le pays, de manière à savoir comment s'y prendre. Moïse a eu l'impression que c'était une bonne idée, et ils ont choisi 12 hommes, un par tribu, pour aller explorer la terre promise, pour voir comment on allait s'y prendre pour la conquérir. Et vous vous souvenez comment les 12 espions reviennent? 2 d'entre eux sont enthousiastes. Ils rapportent même des trophées de ce qu'ils ont trouvé dans ce pays extraordinaire, où, selon la promesse de Dieu, un pays où coule le lait et le miel. Et tous les autres, les 10 autres, vont arriver avec un rapport négatif, décourageant pour tout le monde, en leur disant « c'est impossible ». Nous ne pourrons jamais, ce sont des géants qui habitent là. Et vous vous souvenez comment le peuple a choisi d'écouter le rapport de la majorité. En réalité, ils étaient la minorité parce que quand on est avec Dieu, on est dans la majorité de toute façon. Mais ils ont écouté la majorité humaine des gens de leur peuple et des rapports qu'ils avaient reçus. Et ils ont commencé à se lamenter, à murmurer contre Dieu qui pensait-il avait fait un faux plan pour eux. Et Dieu va réagir. Dieu va réagir et la réaction est rapportée, la frustration de Dieu, dans ce passage que nous avons dans le livre des Nombres au chapitre 14. Je vous propose de suivre un extrait de cette réaction de Dieu. Nombres 14, nous lirons à partir du verset 32. Nombres chapitre 14, verset 32. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert. Et vos enfants seront nomades 40 années dans le désert et porteront la peine de vos iniquités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour. Et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront consumés dans ce désert, ils y mourront. Dieu en a assez de ce peuple qui dit A quand Dieu dit B et qui dit B quand Dieu dit A. Ils sont à la porte de la terre promise, une terre que Dieu leur donne. Et eux, non, veulent trouver les moyens de la prendre eux-mêmes, avec leur force misérable. Et Dieu dit, j'en ai assez de ce peuple. Cette génération méchante ne va pas y rentrer. Vous allez tourner jusqu'à ce que cette génération-ci disparaisse. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 2, Moïse revient sur ses souvenirs et se rappelle ce qui s'est passé à ce moment-là. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 2, au verset 14, il est écrit ceci. Deutéronome, chapitre 2, verset 14. Le temps que durèrent nos marches de Kadès-Barnéa au passage du torrent de Zéred fut de 38 ans, jusqu'à ce que toute la génération des hommes de guerre ait disparu du milieu du camp, comme l'Éternel leur avait juré. La main de l'Éternel fut aussi sur eux pour les détruire du milieu du camp, jusqu'à ce qu'ils aient disparu. Dieu va laisser passer cette génération pendant 40 ans, jusqu'à ce que la génération suivante, une génération de foi, espère-t-il, soit apte à rentrer dans la terre promise. Dieu aurait souhaité permettre à ce peuple de rentrer, mais voilà qu'il faut maintenant remplacer cette génération. C'est seulement la génération suivante qui entrera dans la terre promise. 40 ans dans le désert, jusqu'à ce que cette génération disparaisse. À cause de ces murmures incessants, à cause de ces révoltes constantes, à cause de ce refus constant de croire ce que Dieu dit et de suivre ses instructions. Une vie de haut et de bas. Cette histoire de génération qui remplace attire mon attention vers un passage du Nouveau Testament que nous connaissons bien, qui est une parabole de Jésus qui se trouve dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 20. Dans ce chapitre 20, Jésus raconte une histoire en disant « Le royaume des cieux est semblable à… » Et il va raconter l'histoire d'un maître qui, le matin, à 6 heures, va sur la place de la ville pour embaucher des journaliers pour travailler dans sa vigne. Et il va embaucher un certain nombre de gens qui sont là, prêts à être loués pour la journée. Et Jésus explique qu'à 9 heures du matin, il va retourner sur la place publique et voir là des gens qui n'ont pas encore été employés. Et il va leur dire « Venez ». Il leur promet le salaire d'une journée de travail, un denier. Et puis il va revenir à midi. Et à midi, il y aura encore des gens qui n'auront pas trouvé d'activité. Il va leur dire « Venez, je vous donnerai un juste salaire ». Il va même revenir à 3 heures. Il va encore employer des ouvriers qui sont là désœuvrés. Il va finalement venir à 5 heures, une heure avant que le travail ne s'arrête. Et il va trouver encore là des ouvriers qui ne font rien. Et il va les inviter en leur disant « Venez travailler dans ma vigne, je vous donnerai un juste salaire ». Et ces ouvriers viennent une heure avant que l'on arrête le travail et ils vont travailler. À 6 heures, tout s'arrête. Et le maître va dire à son intendant « Maintenant, tu vas payer ces ouvriers journaliers, mais attention, tu vas commencer à payer d'abord ceux qui sont venus les derniers, ceux qui sont venus à 5 heures. Tu commences par les payer eux, et ceux qui sont venus dès le matin, tu les payes à la fin. » Les derniers arrivés vont passer en premier et recevoir un denier, c'est-à-dire le salaire d'une journée de travail. Oh, ils sont contents. Ils ont travaillé une heure, ils ont gagné une journée de travail. Ceux qui sont derrière dans la queue et qui voient ça de loin sont venus travailler dès le matin et se disent « Oh oh, si ceux-ci qui ont travaillé une heure reçoivent le salaire d'une journée entière, nous on aura sûrement davantage. » Et quand c'est leur tour de recevoir leur paye, ils reçoivent un denier eux aussi. Et ils ne sont pas contents. Une situation semblable dans l'actuel monde moderne produirait une série de grèves, justement. Et à cette époque-là, on a des protestations de la part de ceux qui sont venus de bonne heure le matin. Et Jésus va rapporter la protestation de ces ouvriers-là, qui ne comprennent pas qu'ils ont travaillé beaucoup plus que les derniers, mais qu'ils reçoivent la même chose. Ces gens ont eu à peine le temps de prendre les outils et de commencer à travailler qu'ils se sont arrêtés. Et voilà qu'ils sont payés autant que moi, qui ai travaillé toute la journée. Et le maître va leur répondre. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 20, au verset 13, il est dit ceci. Le maître répondit à l'un d'eux. « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'as-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. » Jésus, autrement dit, renvoie cet ouvrier et lui dit, « Écoute, mon ami, on avait convenu un denier. Voilà un denier. Tais-toi et va-t'en. » Quand on lit cette parabole, notre attention est attirée par l'injustice à prime abord que Jésus met en évidence dans le traitement que ce maître offre à ces différents ouvriers. Et nous avons l'impression, effectivement, en lisant cette parabole, que les ouvriers de la 11e heure, comme les autres d'ailleurs, se sont simplement ajoutés à l'équipe de ceux qui étaient là précédemment. Les détails de la parabole ne nous permettent pas d'aller beaucoup plus loin. On pense donc tout simplement que ces ouvriers de la 11e heure se sont joints à ceux qui étaient là avant et ont terminé le travail de la journée. Cependant, je trouve dans un texte d'Ellen White, paru en 1902, un commentaire intéressant par rapport à ce passage. Je cite, « À la 11e heure, et vous remarquez là l'allusion à la parabole dont nous parlons, à la 11e heure, le Seigneur appellera à son service de nombreux serviteurs fidèles. Des hommes et des femmes, prêts au sacrifice de soi, prendront les places laissées vacantes par les apostasies et les décès. Dieu donnera la puissance d'en haut à des jeunes et à des moins jeunes, avec des esprits convertis, des mains converties, des pieds convertis, des langues converties, des lèvres touchées par les charbons ardents de l'autel divin. Ils se lanceront dans le service du Maître, avançant promptement et résolument pour conduire l'œuvre à son achèvement. » J'entends dans ce passage que les ouvriers qui viennent à la 11e heure ne font pas simplement que de s'ajouter à ceux qui sont avant, ils les remplacent. Permettez que je vous lise un ou deux autres passages du même auteur. À la 11e heure, le Seigneur fera sortir du monde ceux qui veulent le servir et les rassemblera. Ils constitueront un ministère consacré. Mais ceux qui auront eu le privilège et la possibilité de devenir intelligents dans la compréhension de la vérité, mais qui continueront à contrecarrer l'œuvre que Dieu veut accomplir, seront rejetés, car Dieu n'accepte le service que de ceux qui s'y donnent entièrement. Là encore, dans ce passage, qui commence par la même expression à la 11e heure, faisant référence aux ouvriers de la 11e heure de cette parabole, l'auteur mentionne ici qu'il s'agit de remplacer ceux qui ont contrecarré l'œuvre, bien qu'ils sachent et qu'ils aient eu l'intelligence de comprendre ce que Dieu avait l'intention de faire. Dans un troisième passage, nous retrouvons la même chose. C'est ici un texte qui est un commentaire de cet événement que nous avons dans le livre des Actes, au chapitre 10, où il nous est raconté l'histoire de Corneille, ce centenier romain qui va recevoir la visite de Pierre. À ce sujet-là, le commentaire est le suivant. « Ce récit a été rapporté spécialement pour ceux qui vivent dans les derniers jours. Nombreux sont ceux qui ont reçu une grande lumière, mais ne l'ont pas appréciée, ne l'ont pas fait grandir comme ils auraient dû. Ils n'ont pas mis la vérité en pratique. À cause de cela, le Seigneur utilisera ceux qui ont vécu en harmonie avec la lumière qu'ils ont reçue. Ceux qui ont eu le privilège et la possibilité de comprendre la vérité, mais qui n'ont pas obéi à ses principes de vie, seront balayés par les tentations de Satan dans leur recherche d'avancement personnel. Le Seigneur confiera son message à ceux qui auront vécu dans la lumière reçue. Ces hommes prendront la place de ceux qui, bien qu'ayant reçu la lumière de la connaissance, n'ont pas marché selon les voies du Seigneur, mais selon l'imagination de leur cœur non sanctifié. Je découvre que dans cette parabole, il y a plus que ce que le texte ne me laisse voir. Les ouvriers de la 11e heure, en réalité, ils viennent pour remplacer ceux qui, dans les heures précédentes, n'ont pas accompli l'œuvre que le maître souhaitait véritablement accomplir dans sa vigne. Il s'agit par conséquent de les remplacer, parce que ceux qui étaient avant ont fait la grève de la foi. Et la réaction qu'ils ont au moment de recevoir leur paye le montre. Ils sont venus avec d'autres motivations, avec une motivation de salut par les œuvres, avec une motivation qui n'était pas celle d'un service comme le maître aurait voulu. Ils attendaient une rétribution de leur travail. Alors qu'en réalité, le fait d'avoir été appelé à servir était une grâce en soi. Les ouvriers de la 11e heure, par conséquent, sont appelés à venir et à remplacer ceux qui, dans les générations précédentes, ont fait d'une manière ou d'une autre, dans une proportion plus ou moins grande, la grève de la foi par rapport à l'œuvre de Dieu. Remplacer. Cette situation, finalement, c'est celle que le peuple d'Israël a rencontrée au désert. Dieu a voulu laisser passer cette génération pour que la suivante, animée d'une plus grande foi et d'une plus grande force, puisse rentrer dans la terre promise. Oh, ce n'est pas qu'ils n'ont rien fait. Ils ont obéi, ils sont sortis, ils ont quitté l'Égypte. Ils se sont engagés, ils sont passés aussi au travers de la mer Rouge, qui est une image d'ailleurs du baptême, nous disent les Écritures. Ils ont agi avec une certaine foi, ayant confiance dans les promesses de Dieu. Ils ont suivi le dirigeant que Dieu leur avait donné. Mais combien de murmures, combien de révoltes, combien de hauts et de bas dans l'expérience de foi médiocre qu'ils pouvaient avoir, bien qu'ils soient la génération des pionniers, si l'on peut dire ainsi. Je trouve dans le texte que nous avons regardé tout à l'heure une coïncidence intéressante. Le texte qui nous rapporte l'expérience de manque de foi du peuple hébreu se trouve dans le livre des Nombres au chapitre 14. Nous avons lu un passage de ce chapitre où il nous était raconté comment le peuple, justement, va défaillir dans sa foi devant le rapport des 10 espions qui vont apporter un rapport négatif. Mais dans ce même chapitre, dans ce même chapitre 14, se trouve un passage intéressant et troublant, me semble-t-il, que Moïse reprend parce que c'est une parole de Dieu lui-même. Et Moïse va rappeler à Dieu ce qu'il a dit. C'est encore dans ce chapitre 14 du livre des Nombres, et nous lirons à partir du verset 17. Nombre 14, verset 17. Maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, « L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent, et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. » C'est ici une citation d'un texte que l'on trouve dans le livre de l'Exode, au chapitre 34, où la formule entière est ici donnée par Dieu et où il parle effectivement du fait qu'il fait grâce en 1000 générations à ses serviteurs fidèles. Mais ici, Moïse cite ce passage et rappelle que Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3 et jusqu'à la 4e génération. 40 ans étaient passés dans le désert pour laisser passer cette génération-là. Et je pense encore à l'époque des pionniers. Et je réfléchis, combien de temps se sont passés, combien de générations ont passé, depuis le moment où la dernière prophétie chiffrée des Écritures s'est réalisée en 1844. Cette dernière borne biblique précise, avant que le retour de Jésus ne se manifeste. Nous sommes effectivement, à partir de là, la 5e génération. C'est-à-dire que les 4 générations précédentes ont apporté ce qu'elles avaient, mais elles n'ont pas toujours apporté ce que Dieu aurait voulu. Nous sommes cette cinquième génération. Et j'ai le sentiment, étant de cette génération, que Dieu compte sur cette génération d'une façon particulière. C'est la cinquième. Ce sont les ouvriers de la onzième heure. Nous sommes ces ouvriers de la onzième heure. Quand je réfléchis et quand je relis les textes du passé, je me rends compte que ceux qui nous ont précédés sur le chemin de la foi nous ont donné à certains, dans certains domaines, un exemple, mais dans d'autres, ont failli devant la mission que Dieu leur avait donnée aussi. Écoutez ce texte écrit par Ellen White en 1868, c'est-à-dire en réalité 5 ans seulement après l'organisation de l'Église. Je cite, « Beaucoup n'ont fait aucun progrès dans la connaissance de la vraie sainteté depuis des années. Ils sont devenus des nains spirituels. Au lieu d'avancer dans la perfection chrétienne, ils retournent dans les ténèbres et l'esclavage de l'Égypte. » Vous entendez là une allusion à cet événement auquel nous faisions allusion par rapport à Israël qui, devant la terre promise, veut retourner en Égypte. Et je suis interpellé par ce qui est écrit là, 1868, si peu de temps après l'organisation de l'Église, beaucoup n'ont fait aucun progrès. Et je me pose la question où j'en suis, dans ma marche aussi. Est-ce que je rentre dans cette catégorie des nains spirituels qui n'ont pas fait de progrès dans leur perfection chrétienne et qui, par leurs actions et leurs choix, disent à Dieu qu'ils préfèrent retourner en Égypte? Les générations du passé nous ont apporté de bonnes choses, mais elles ont aussi apporté leur lot de faiblesses. Et je n'en mentionnerai que quelques-uns pour que vous puissiez me suivre dans cette réflexion. Un certain nombre d'actions et de choix de notre Église dans le passé représentaient finalement ce retour en Égypte. Je pense par exemple à ce moment difficile où l'Église a eu du mal à accepter le message biblique de la justification par la foi en 1888, où la servante du Seigneur à ce moment-là disait que le Seigneur était prêt à revenir, mais qu'à cause de la faiblesse de l'Église, le temps serait rallongé. Je pense à ce moment où l'Église a eu du mal à élaborer clairement et à accepter clairement une conception biblique de la perfection chrétienne, qui soit saine et conforme aux Écritures. Je pense aussi à ces moments où les générations passées ont laissé entrer dans l'Église des tenues vestimentaires et un extérieur qui n'était pas approprié à la vertu chrétienne. Je pense à ces générations qui ont aussi introduit dans l'Église la musique du monde pour soi-disant garder les jeunes, alors qu'elles n'avaient rien à y faire. Je pense à ces générations qui ont tissé des liens particuliers avec d'autres églises, des liens malsains au point qu'aujourd'hui, dans certains endroits du monde, on ne peut plus parler de la tragédie des siècles parce qu'il est mal vu de souligner ce que les autres croient et comment ils se situent par rapport aux Écritures. Je pense à ces générations qui, dans l'Église, ont introduit la morale qui est celle du monde, pensant être ouvert pour ouvrir l'Église à tous les pécheurs. Je pense à ces réactions des générations passées qui ont estimé que l'esprit de prophétie n'avait pas d'importance, qu'on n'avait pas besoin de ces révélations supplémentaires et qui pensaient avoir bonne réputation en disant « la Bible est la Bible seule », ce qui est vrai, mais en rejetant du même coup l'esprit de prophétie. Les générations suivantes nous ont apporté un lot de bons exemples et de moins bons exemples. Et à cause de cela, en 1901, Ellen White écrit « Il se peut que nous passions encore bien des années dans ce monde à cause de notre insoumission, comme ce fut le cas pour les enfants d'Israël. » Je suis impressionné de voir à quel point l'histoire de notre Église reproduit bien des événements de l'histoire du peuple d'Israël avec les mêmes conséquences et pour les mêmes causes. Alors nous sommes cette cinquième génération. Nous sommes ces ouvriers de la onzième heure, une génération qui est appelée à ne pas reproduire les erreurs du passé, mais à aller plus loin. Une génération qui est invitée à mettre en pratique les principes de la loi de Dieu. Une génération qui est invitée à se séparer du monde et à consacrer ses forces entières et ses moyens matériels et financiers à ce qui doit devenir la priorité numéro un de l'Église dans les temps de la fin. C'est même une génération comme les ouvriers de la 11e heure qui est invitée à accomplir en une heure plus de travail que les autres pendant le reste de la journée. C'est-à-dire une génération qui, en peu de temps, par la grâce de Dieu, par la totalité de son engagement, va accomplir en peu de temps un travail qui n'aura pas été fait pendant de nombreuses années. Écoutez ceci. Du même auteur, dans « Message choisi », volume 2, « À la 11e heure », et vous reconnaissez là encore une allusion à la parabole de Matthieu, chapitre 20, « À la 11e heure, des milliers de personnes verront et accepteront la vérité. » Dans Amos, au chapitre 9, au verset 13, il est dit « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence. Ces conversions à la vérité se feront avec une rapidité qui surprendra l'Église, et le nom de Dieu seul sera glorifié. » Une génération qui remplacera la précédente. Elle ne fera pas simplement que de s'ajouter au travail qui a déjà été fait. Ils sont appelés à remplacer avec une qualité d'engagement, avec une qualité de foi, avec une qualité de travail qui est différente des générations précédentes et qui sera appelée à accomplir en peu de temps une œuvre qui n'aura pas pu être accomplie avant. Finalement, cette cinquième génération, cette génération des ouvriers de la 11e heure, c'est la génération de ceux qui n'ont plus rien à perdre. Qui n'ont plus rien à perdre parce qu'ils ont tout donné. Parce qu'ils ont tout donné à ce qui devient, dans l'heure du temps, la seule priorité qui demeure, à la fin. Et je me pose la question, si nous sommes cette génération, la cinquième, si nous sommes cette génération des ouvriers de la 11e heure, est-ce que nous avons ces caractéristiques nécessaires pour faire partie de cette génération-là et d'être au service de Dieu comme il le souhaite? Je me pose la question pour moi-même. Faudra-t-il que le Seigneur remplace encore cette génération pour trouver la meilleure après? Une génération consacrée suffisamment à son service, selon son plan, pour achever cette œuvre? Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de la remplacer parce que je suis convaincu que nous avons tout ce dont nous avons besoin pour être cette cinquième génération, pour être cette génération des ouvriers de la 11e heure. Il suffit simplement que nous mettions dans la main de Dieu tout ce qu'il nous a confié pour son service, nous compris. Ainsi, je crois que dans les temps de la fin, nous sommes invités nous-mêmes à relever ce défi de la cinquième génération. Relever le défi de ceux qui veulent véritablement s'engager envers le Seigneur de telle sorte qu'il puisse accomplir ce qu'il n'a pas pu faire avant. Pour de multiples raisons qui ne nous regardent pas finalement. Mais accomplir dans cette génération une œuvre qui est nécessaire à accomplir avant que Jésus revienne. Et je crois fermement qu'il y aura un moment où il y en aura sur cette terre qui sauront exactement où on en est. Et qui ne seront pas surpris alors que le monde entier sera pris de stupéfaction devant les événements qui vont se dérouler. Ce qui vient sur le monde va prendre le monde par surprise, mais pas tous. Il en est certains qui sauront exactement où ils en sont, parce qu'ils auront été fidèles et consacrés, et parce qu'ils verront sous leurs yeux se réaliser cette prophétie qui se trouve dans Habacuc, au chapitre 1er, au verset 5, où Dieu parle et dit « Jetez les yeux parmi les nations et regardez, et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. »